Radio Prague, les informations. Bonjour et bienvenue à l'écoute des informations de Radio Prague. On commence avec les grâces présidentielles. Václav Klaus rejette les accusations de corruption. Une révolte a été déjouée dans les prisons tchèques et puis le premier conseil des ministres communs des gouvernements tchèques et slovaques a été annulé. Le président de la République, Václav Klaus, a vivement démenti ce mardi l'information de corruption, selon laquelle une grâce présidentielle qu'il a accordée il y a quelques années de cela aurait été achetée. Selon l'hebdomadaire Respekt, qui a publié l'information lundi, il existe pourtant deux témoins auxquels une ancienne policière de la région de Karlovy Vary, en Bohême de l'Ouest, aurait affirmé que la grâce présidentielle dont elle a bénéficié a été achetée. J'oppose mon veto, j'oppose un veto catégorique à l'information selon laquelle une telle chose aurait pu se passer. La technique selon laquelle sont accordées les grâces ne le permet absolument pas, a réagi le chef de l'État, ancien employé de la police en charge des autorisations et permis de séjour pour les étrangers en République tchèque. Radka Kadletsova avait été condamné pour avoir accepté des pots de vin en 2009. Une grâce présidentielle lui avait été accordée. Les services pénitentiaires et la police tchèque ont déjoué ces jours derniers une tentative de révolte massive dans plusieurs prisons à travers le pays. Le ministre de la Justice, Jiří Pospíšil, s'en est félicité lundi soir à la télévision. Des préparatifs ont eu lieu dans plusieurs prisons, a ajouté la porte-parole du ministère, selon qui un nombre important d'armes blanches artisanales fabriquées par des prisonniers a été saisi à cette occasion. La porte-parole des services pénitentiaires a qualifié de spéculation l'information diffusée par la chaîne de télévision Prima, selon laquelle cette révolte avait été préparée par des membres d'un large réseau criminel, incluant d'anciens policiers d'élite, un réseau appelé le Gang de Berdych. Ce mardi, le ministre de la Justice a lui aussi démenti cette information. Le Conseil des ministres communs des gouvernements tchèques et slovaques, initialement prévu la semaine prochaine, a été annulé. L'information a été communiquée ce mardi par le bureau du gouvernement slovaque. Cette annulation est la conséquence de la chute la semaine dernière de la coalition gouvernementale dirigée par Iveta Radičová. Celle-ci a démissionné suite au résultat négatif du premier vote par le Parlement slovaque, vote relatif au renforcement du fonds de sauvetage de la zone euro. Pour l'heure, aucun accord n'a été trouvé pour résoudre cette crise gouvernementale. Il devait s'agir du premier conseil des ministres communs des gouvernements tchèques et slovaques depuis la partition de la Tchécoslovaquie en 1992. Celui-ci devait se tenir lundi prochain à une quarantaine de kilomètres de Bratislava. Les questions bilatérales dans les domaines de la protection contre les inondations, de l'armée ou encore de l'énergétique devaient notamment être abordées. Le gouverneur de la Banque centrale tchèque estime que les débats sur l'adoption de la monnaie unique européenne ne seront pas d'actualité pendant encore plusieurs années à Prague. Miroslav Singer s'exprimait cette semaine dans le cadre d'une conférence sur la crise de la zone euro. L'économie tchèque n'est pas prête pour l'euro, a déclaré Monsieur Singer. Nous ne serons pas acceptés dans la zone euro tant que nous n'aurons pas un budget en ordre et la zone euro ne sera vraisemblablement provisoirement attirante pour personne. Fin de citation. Les membres de la direction de la Banque centrale sont nommés par le président tchèque Václav Klaus, lui-même hostile à toute forme de renforcement de l'intégration européenne. Le président de la République, Václav Klaus, toujours lui et son épouse, ont entamé ce mardi une visite de 3 jours dans le nord de la Bohême. Même si le chef de l'État a prévu une rencontre avec les maires des communes de la région de Chluknov, il ne s'y rendra pas. Cette région est depuis plusieurs semaines le lieu de tensions entre les non-Roms et les Roms. Selon les autorités régionales, le programme de la visite présidentielle a été établi avant le début des problèmes provoqués par certains incidents violents, notamment dans les communes de Novy Bor et Varnsdorf. On passe au sport. La 3e journée de la phase de poule de la Ligue des champions de football débute ce mardi avec 8 rencontres au programme. L'unique club tchèque présent dans la compétition jouera lui mercredi et le Viktoria Plzeň sera en déplacement à Barcelone, tenant du titre. Après 2 matchs, le champion de République tchèque occupe la 3e place de son groupe avec 1 point derrière le FC Barcelone et l'AC Milan, mais devant le Bate Borisov. Le 1er novembre, le Viktoria Plzeň accueillera le club catalan Barcelone, donc à Prague. On termine avec un mot de météo. Après une journée de mardi encore largement ensoleillée, le ciel se couvre sur la majeure partie du territoire ce mercredi, jour de la fête des Michaela. Quelques averses sont prévues, essentiellement dans la moitié nord du pays. Les températures varient entre 8 et 12 degrés pour les maximales. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information qu'a eu le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention. Merci également de rester en notre compagnie pour la suite de notre programme. Faits et événements en République tchèque.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de cette émission. Vous êtes toujours sur Radio Prague. Merci à Guillaume Narguet pour le bulletin d'information. Au sommaire de notre émission aujourd'hui, les commémorations des premières déportations de juifs à Térézine. C'était il y a 70 ans. Nous parlerons avant cela d'une tentative de mutinerie, de révolte dans les prisons tchèques. Une révolte de prisonniers que les services pénitentiaires auraient réussi à déjouer ces derniers jours. Et puis, dans la deuxième partie de cette émission, nous prendrons la direction de la France, à environ 70 km de Paris, sur les bords de la Seine, là où le Tchèque Pavel Tigrid s'était installé, dans une maison sur laquelle une plaque en son honneur sera dévoilée samedi prochain. Voilà pour le programme, très bonne écoute. Les services pénitentiaires et la police tchèque ont déjoué ces derniers jours une tentative de révolte massive dans plusieurs prisons à travers le pays. Selon l'information diffusée par la chaîne de télévision privée Prima, cette révolte serait préparée par les membres d'un large réseau criminel, un réseau appelé le Gang de Berdych et qui a opéré sur le territoire tchèque depuis 1995. Des détails sur cette révolte dans les prisons, c'est avec Magdalena Hrozinkova.
11 ans après la plus grande révolte de détenus tchèques qui a touché en janvier 2015 des 33 prisons du pays, les autorités tchèques ont confirmé lundi avoir endigué une mutinerie apparemment organisée début octobre, elle aussi dans plusieurs prisons tchèques. Leur nombre n'a pas été précisé, mais d'après l'agence de presse ČTK, la prison de Pankrác à Prague aurait été un des centres de la révolte. Des armes ont été saisies en nombre, Markéta Prunerová, porte-parole du service pénitentiaire tchèque, a indiqué à la télévision publique. Je peux confirmer que les préparatifs de la révolte ont rapidement été révélés par les autorités. Le risque que cette mutinerie puisse se réaliser a été minimisé. Parmi les indices que nous avons obtenus, il y avait effectivement des armes retrouvées auprès des prisonniers. Il ne s'agissait pas d'armes transportées dans les prisons de l'extérieur, mais des objets que les détenus ont eux-mêmes fabriqués dans le cadre des travaux pénitentiaires. Lundi soir, devant les caméras de la télévision tchèque, le ministre de la Justice, Jiří Pospíšil, a réfuté toute critique des médias ciblée sur les responsables de la sécurité dans les prisons.
Nous avons obtenu les informations dans la phase initiale des préparatifs de l'opération, donc plusieurs semaines avant que celle-ci ne doive se dérouler. Cela veut dire que le système d'alerte a bien fonctionné.
Mardi, le ministre de la Justice a rejeté l'information diffusée par la chaîne de télévision Prima et relayée par d'autres médias selon laquelle cette révolte avait été préparée par des membres d'un large réseau criminel incluant d'anciens policiers d'élite, réseau appelé d'après sa principale figure, David Berdych, le gang de Berdych. Depuis le démantèlement du gang en 2004, plus de 50 personnes ont été poursuivies en justice dans ce qui est la plus importante affaire de crime organisé dans l'histoire de la République tchèque. La récente mutinerie, dont les autorités ne veulent pas pour l'instant publier plus de détails, fait l'objet d'une enquête policière. Aussi, elle remet en cause le fonctionnement des prisons tchèques sous-financées et surpeuplées, le nombre de détenus en République tchèque étant un des plus élevés en Europe.
Le 16 octobre 1941, le premier train de déportation des Juifs de Bohême-Moravie partait de Prague. 70 ans se sont écoulés depuis, et dimanche, environ 200 survivants se sont rassemblés à Térézine, appelée Theresienstadt en allemand, pour commémorer cette date. Plus d'informations avec Anna Kubista.
La situation des Juifs de Bohême-Moravie s'était déjà dramatiquement dégradée depuis l'invasion et l'occupation de la Tchécoslovaquie et la création du protectorat. Le 10 octobre 1941, la décision est prise par le nouveau protecteur du Reich, Reinhard Heydrich. C'est le début de la solution finale de la question juive. Les nazis ne perdent pas de temps. Le premier train part de Prague, direction deux ghettos prévus à cet effet, Lodz en Pologne et Térésine, dans le nord de la Bohême. Pour Thomas Brot, historien, ancien prisonnier, la déportation n'est que l'étape suivante d'un processus d'exclusion et de ségrégation de la communauté.
Ce n'était plus ni la phase sociale ni la phase psychologique, mais la phase physique. On est entré dans la phase d'élimination physique de la communauté juive. Survivre n'était ni une question de choix, ni une question de courage. C'était plus une question de hasard et de chance.
En à peine 3 semaines depuis le lancement de la solution finale, 5000 juifs sont déportés, dont seuls 276 ont survécu. À partir du mois de novembre, la plupart des juifs du protectorat sont envoyés à Térésine, ancienne ville de garnison de l'époque de Marie-Thérèse, transformée en ghetto, station intermédiaire avant les convois vers Auschwitz. Michael Frankl, historien au musée juif de Prague.
Les transports sont alors organisés par la centrale de la migration juive, soit l'organisation principale allemande qui était chargée d'appliquer la politique nazie antisémite au sein du protectorat. Les personnes déportées recevaient un courrier avec des informations précises sur ce qu'ils avaient le droit de prendre avec eux. Pour le reste de leurs biens, ils étaient censés le laisser dans leur appartement placé sous scellé.
On sait évidemment qu'il n'a pas fallu très longtemps pour que ces appartements soient par la suite confisqués et attribués à d'autres personnes. Entre 1941 et 1945, 81 000 juifs de Bohême et Moravie sont envoyés en camps de concentration, parmi lesquels seuls 10 500 seront libérés. Dimanche, environ 200 survivants se sont retrouvés au ghetto de Térésine, dans le nord de la Bohême, pour commémorer le tragique anniversaire du début des déportations. À cette occasion, une reconstitution de l'opéra d'enfants Brundibar de Hans Krasa a été donnée, auquel certains survivants se sont joints pour la chanson finale. Cet opéra composé dans le ghetto avait été à l'époque interprété par les plus jeunes prisonniers de Térésine. Pour l'historien Michael Frankl, la déportation et l'élimination des Juifs ont eu des conséquences irréparables pour les pays tchèques.
La déportation a eu pour conséquence d'exclure totalement les Juifs de la société tchèque, et celle-ci n'a jamais pu être reconstituée dans son intégralité et dans sa richesse d'antan.
Et à l'heure où les derniers survivants des camps disparaissent peu à peu, le rassemblement de dimanche rappelle l'importance de la transmission de cette mémoire aux générations suivantes.
On passe maintenant à la deuxième partie du programme en français de Radio Prague. Merci de nous être fidèles et attentifs. Une cérémonie sera organisée ce samedi, le 22 octobre. Une cérémonie en hommage à Pavel Tigride, à Hérissy, près de Paris. Une plaque sera dévoilée sur la maison où a habité la famille Tigride, dans cette commune située sur les bords de la Seine. Pavel Tigride est sans doute, après Milan Kundera, l'exilé tchèque en France le plus célèbre. Il a soutenu activement la dissidence, notamment en publiant la revue Svědectví, témoignage en français. Et après la chute du régime communiste en 1989, Pavel Tigride, ami de Václav Havel, est revenu dans son pays natal, où il est devenu notamment ministre de la Culture. Mais il est resté très attaché à la France et à la commune d'Hérissy, une commune où il a été enterré en 2003. Dans quelques secondes, nous serons en ligne avec son ancien voisin, Robert Millard, qui est pour beaucoup dans la pose de cette plaque à la mémoire de Pavel Tigride.
Panorama.
Panorama.
Bonjour Monsieur Millard. De quand date votre première rencontre avec Pavel Tigride?
Oh, mon bon monsieur, ça fait au moins une trentaine d'années, loin de 30 ans, oui. On est arrivé presque ensemble à Hérissy.
Vous vous souvenez de cette rencontre?
Vaguement, mais enfin, c'est surtout quand on a été à la retraite. Enfin, moi j'ai été à la retraite et lui aussi. On a eu j'étais plus souvent ici que sur la route.
Quel genre de voisin était-il, Pavel Tigride?
Ah, c'était meilleur voisin du coin. Ah oui, 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 sûr.
Est-ce que vous avez pu apprendre des choses sur sa vie, sur sa carrière et par conséquent sur la Tchécoslovaquie et la République tchèque à ses côtés?
On parlait pas tellement politique, mais je me souviens, je me rappelle plus les dates exactes, quand nous sommes allés à Prague, c'est-à-dire on a été en Pologne, et il m'a dit quand tu reviens de Pologne, tu feras un petit détour par Brno, un nom comme ça, et tu viendras à la maison. Alors, on a fait le petit détour, mais le petit détour, il faisait quand même 300 km presque. Et alors, on a été accueillis chez Pavel et Ivana, et on a même occupé son logement de fonction au ministère de la Culture. On a passé presque une semaine, mais alors c'était sensationnel. Lui, il travaillait, il était ministre à l'époque, il travaillait, mais des gens très très simples. Le soir, on se retrouvait, on allait boire un pot sur le bord du fleuve, là où il y a une péniche qui fait restauration, on buvait un coup, quoi, c'est le cas de le dire, et puis on parlait de je ne sais qui, de je ne sais quoi, de travail, on parlait pas beaucoup de travail, on parlait beaucoup de choses, mais de travail, non pas tellement.
Est-ce que quand il était en France, à RICI, Pavel Tigrid vous semblait avoir le mal du pays?
Il a toujours eu une pensée très profonde pour son pays. Son pays, c'était quelque chose. Il avait souffert dans son pays.
Est-ce qu'il en parlait de cette souffrance?
On en a parlé peut-être une fois ou deux, et après, c'était pas la peine c'est pas la peine de ressasser les moments difficiles. Quand on a des difficultés dans la vie, quand on se rencontre, on ne parle que des bons moments, les mauvais moments, on les oublie, on essaye de les oublier tout au moins, ou on n'en parle pas.
Est-ce que c'est important, d'après vous, pour la commune d'Erici, cette cérémonie de samedi, cet hommage rendu à Pavel Tigrid?
Ah, moi, j'en suis très fier. J'en suis très fier, et croyez-moi que je suis ça de près depuis un bon moment. J'ai un peu tarabusté Monsieur le maire et Grégoire, son fils, pour que ça se fasse. Parce que c'était vraiment un personnage, c'était des personnages très important et d'une simplicité. C'est ça qui est terrible. C'était des gens qui avaient quand même une haute fonction. D'ailleurs, votre ancien président, Laclav Havel, quand il est venu à son enterrement, avait voulu absolument passer par les bords de Seine, parce qu'il avait dû en entendre parler, ces fameux bords de Seine. On lui a fait voir les bords de Seine et tout le service d'ordre qui l'attendait d'un côté, puis lui, on l'a ramené par un petit chemin par les bords de Seine. Ils étaient ravis. Et tout le monde aimait Prague et Erici. C'est dommage, c'est trop grand pour nous. On aurait dû être jumelés.
Et vous parliez de Václav Havel. Est-ce que justement la présence de Pavel Tigrid à Erici a parfois amené son lot de limousines, de visiteurs hors pair?
Exactement, s'il y a eu des visiteurs hors pair, je sais que de temps en temps, il y en avait. Il y en a qui venaient le boire, ça c'est sûr, parce que pour un peu, j'avais des difficultés à rentrer à la maison. Parce que moi, j'habite juste en face. Je traverse la rue et je suis chez lui. Et il était à Prague en tant que ministre, au moment où il revenait de temps en temps, mais c'est moi qui avais les clés et qui surveillais la maison. Alors j'étais chez moi. Je sais que quand madame... comment s'appelle-t-elle, madame, la femme du président, Laclav Havel, venait voir souvent madame Tigrid. Bon, là, je savais qu'il y avait quelqu'un qui était là, parce que il y avait deux, trois policiers en civil au bout de la rue. C'est tout. Enfin, moi, je me suis jamais initié dans ces affaires. Nous, c'était après les affaires.
Et après les affaires, donc vous avez passé du temps un peu avec lui. Il était satisfait de ne plus occuper de fonctions ministérielles?
Ça lui a fait du mal. Ça lui a fait, la peine de pas être, de pas avoir été élu sénateur. Ça, on en a parlé. Bon, il a dit, bon, bah, c'est comme ça, hein, c'est la vie, c'est la vie. On sentait que ça l'avait marqué, mais sans pour autant dire, bon, bah, je vais... Non, non, oui. On en a parlé une fois et pop, après, c'était terminé. C'est ça qui était bien avec eux. On parlait un coup, paf, et puis après, c'était cuit, on n'en parlait plus. Les choses étaient dites, point.
Est-ce que vous avez l'impression que Pavel Tigride se sentait quand même un peu chez lui, à RSI ?
Bon, oui, il se sentait très bien chez lui, et il adorait RSI, ça je peux vous le dire. D'abord, même les gens qu'il ne connaissait pas, savaient bien que ce monsieur qui se promenait avec son chien, le matin, quand au printemps, ou par n'importe quel temps, en bord de Seine, les bords de Seine, alors ça, il y tenait, hein, croyez-moi. Ah oui. Sa femme Ivana également.
Ils ont toujours été acceptés dans la commune, ou est-ce que parfois des gens se demandaient ce que faisait ce...
Mais les gens ne connaissaient pas. Il y a des gens qui ne connaissaient pas RSI. Bon, bah, vous savez, il passait pas en agitant une cloche pour dire, attends, regardez, c'est moi le ministre de la culture de Prague, etc. Non, non, non. C'était un bonhomme comme vous et moi.
J'espère que la cérémonie se déroulera comme il se doit ce samedi à RSI. Merci beaucoup, Monsieur Millard, d'avoir répondu à ces quelques questions.
C'est dommage que vous ne soyez pas là samedi.
Très dommage. Merci, Monsieur Millard. À très bientôt.
Allez, au revoir.
Au revoir. Et c'est donc avec Robert Millard, ancien voisin de Pavel Tigride, que prend fin cette nouvelle édition de Panorama, une émission diffusée toutes les semaines et présentée en alternance avec Anne-Claire Veluire. Merci à toutes et à tous de votre attention et de votre fidélité. Vous le savez, vous pouvez écouter cette émission ainsi que toutes les émissions des archives de Radio Prague en vous rendant sur notre site www.radio.cz. Si vous ne parlez pas tchèque, c'est pas grave, nous avons des pages en français. Il suffit de cliquer sur l'onglet français. N'hésitez pas non plus à nous écrire. Les lettres se font rares en ce moment avec l'automne. Et si vous voulez nous envoyer des courriels, c'est à l'adresse français@radio.cz, français sans cédille@radio.cz. Et vous pouvez également nous écrire par adresse postale. L'adresse figure évidemment sur notre site internet, dont je vous rappelle une dernière fois l'adresse, www.radio.cz. C'était Alexis Rosenzweig au micro et je vous souhaite une très agréable journée ou soirée, où que vous soyez dans le monde.